Donc, Michel, je te laisse la parole.
Merci. Voilà. Donc, merci à Jean et à toute l'équipe des Jeudis en question de m'avoir accueilli. Donc, je vais d'abord me présenter un tout petit peu. Je suis à la retraite depuis 3 ans maintenant, 3 ans et demi. Mais j'étais responsable scientifique des études et recherches sur les prédateurs pour le compte d'un établissement public qui s'appelle l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui dépendait du ministère de l'Environnement, qui dépend toujours du ministère de l'Environnement. Et donc j'étais chargé des équipes qui s'occupaient des prédateurs, de tous les prédateurs, depuis la belette jusqu'à l'ours, en passant par l'ours, le lynx, et également des espèces qui posent problème à des intérêts économiques, du genre le hamster en Alsace par rapport à certaines cultures, le ragondin, le castor, qui fait des dégâts aussi à certains vignobles dans le Midi. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Enfin, voilà. Toutes ces espèces à problème, le blaireau avec les problèmes de tuberculose bovine dans la Côte d'Or, etc. Voilà. Donc ça m'a occupé une dizaine d'années dans ma carrière, et précédemment, je travaillais plutôt sur la faune de montagne, toujours pour le ministère de l'Environnement, et sur ce qui est les ongulés en montagne, c'est-à-dire le chamois, le bouquetin, le mouflon, et puis les oiseaux aussi, hein, grand tétras, petit tétras, gélinotte, bartavel, perdrix rouge, des choses comme ça. Hein, voilà. Donc la faune m'a occupé une quarantaine d'années dans ma carrière. Et avec un petit intermède de 3 ans où j'ai eu à gérer justement les équipes de ce qu'on appelait autrefois les gardes-chasse et les techniciens de l'environnement qui ont à gérer et intervenir éventuellement pour... j'ai eu à mettre en place, c'est la période intermédiaire entre mes 2 emplois, j'ai eu une période où j'ai eu à mettre en place précisément les prélèvements sur le loup dans les Alpes, au moins sur la Drôme et l'Isère. Donc je connais un peu les deux côtés, à la fois l'aspect protection de l'espèce, mais aussi ce qui concerne les prélèvements. Sachant qu'un établissement public, on n'a pas à prendre parti pour l'un ou pour l'autre, ou protéger intégralement l'espèce ou la prélever, parce que, c'est pas tellement l'objet de mon exposé, mais j'en profite en me présentant, c'est que quand on a à gérer une espèce, il faut tenir compte à la fois de l'aspect protection de l'espèce, mais aussi protection des intérêts économiques en jeu, tels l'agriculture, l'élevage, etc. Donc nous, on n'a pas, dans mon établissement et dans ma responsabilité, je n'avais pas à prendre parti dans les décisions qui étaient prises par le ministère dans le cadre, pour ce qui concerne le loup, de ce qu'on appelait le Comité National Loup, qui se réunissait 3-4 fois par an pour justement examiner les intérêts des éleveurs, mais aussi les intérêts, politiques, de protection de l'espèce, etc. Donc moi, j'étais en quelque sorte le conseiller scientifique du ministère de l'Environnement essentiellement, et accessoirement de l'agriculture, puisqu'il y a quand même interférence entre les deux. Et donc j'avais aussi la responsabilité de mettre en place toutes les études sur la génétique, sur les dynamiques de population, enfin bon, tout un tas de travaux scientifiques que nous ne menions pas en direct, mais on avait des contrats, notamment avec le CNRS, diverses universités, en France ou à l'étranger, on travaillait avec Barcelone ou avec d'autres universités au Portugal, enfin un peu dans tous les pays européens. Voilà un peu pour me présenter. Alors, mon exposé aujourd'hui, ça ne vise pas à être technique sur justement les choses un peu pointues. Ceci dit, je pourrais répondre éventuellement après s'il y a des questions un peu plus techniques, je dirais. Hein. Donc, mon exposé, c'est surtout de faire une description rapide de l'espèce, parce que tout le monde a vu des photos, tout le monde connaît un peu ce qu'est le loup. Je m'attacherai plus à donner des caractéristiques sur des aspects de biologie intéressants pour essayer de détecter ce qu'est un loup dans la nature lorsqu'on est en présence de dommages. Donc il faut connaître un peu ce qu'est la vie sociale de l'espèce, ses activités journalières, connaître un peu quand même si je ne vais pas aller très profond dans le système, mais connaître un peu quels sont les éléments qu'on appelle la dynamique des populations, voir comment l'espèce progresse ou pas, parce qu'on a besoin de le savoir nous au niveau scientifique. Hein. Ensuite, d'une façon un peu plus pratique et qui vous intéressera peut-être davantage, c'est où peut-on trouver le loup, hein, où est-ce qu'on va aujourd'hui pouvoir estimer qu'il va s'étendre ou pas. Hein. Alors, également, pour préciser aussi certaines caractéristiques, je m'attacherai également à donner quelques particularités d'identification. Les documents que vous avez là sont très intéressants. C'est vrai que la bibliographie choisie me semble très pertinente pour répondre à beaucoup de choses. Mais je donnerai un peu les caractéristiques pour ce qui nous concerne en France. Et puis je vous ferai un rapide historique de la colonisation en France, puisqu'il y a toujours un suspens, généralement, c'est une question que je commence à prévenir, c'est est-ce que le loup a été introduit ou est-ce qu'il est venu naturellement en France ? Voilà, ça c'est souvent une question qui est posée. Donc, description rapide de l'espèce. Hein, donc il faut savoir qu'il n'y a qu'une espèce de loup dans le monde. Hein, tous peuvent s'hybrider entre eux. Et le loup peut s'hybrider aussi avec les chiens domestiques. Hein, c'est la même famille. Hein, donc ça, je pense que vous le savez. Nous, en France, il n'y a actuellement qu'une seule espèce présente, enfin, ou sous-espèce plutôt. C'est l'espèce des Abruzzes qui vient d'Italie. Et donc, on verra tout à l'heure dans le document sur la répartition, comment il est venu et est-ce qu'on est sûr de nous ou pas. Donc c'est la lignée qu'on appelle italienne des Abruzzes. Hein. Alors ça ressemble, comme vous pouvez le savoir, hein, à un chien berger allemand ou un malamute aussi. Hein. Ils sont un peu plus costauds physiquement. Au niveau du pelage, vous avez des photos très intéressantes sur les pages de couverture des livres. Vous en avez des tout noirs et des tout blancs. Donc nous ici, celui des Abruzzes, non, c'est la lignée classique d'un loup qui va ressembler à un chien loup classique. Ce qui est intéressant, il y a une couverture intéressante où vous voyez un masque facial blanc sur la tête d'un loup. Je ne sais plus lequel c'est. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est une caractéristique du loup des Abruzzes non plus. C'est celui-ci. Vous le verrez, le masque facial, voilà, tout le tour de la bouche, il a vraiment un pelage tout blanc. Et ça, c'est une caractéristique très très marquée chez le loup des Abruzzes. En vieillissant, il a ce masque qui prend un peu plus d'ampleur. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique importante à connaître. Donc la hauteur au garrot, 65 cm jusqu'à 80 cm, ce qui est déjà pas si mal que ça. Chez nous, le loup va peser entre 20 et 40 kg pour le mâle, la femelle plutôt autour de 18 kg. Donc un peu plus petit en poids. Ceci dit, en nature, il est impossible de les différencier. Voilà un peu. Alors, une autre caractéristique importante sur laquelle je reviendrai, c'est la dentition. Malheureusement, je n'ai pas pu amener de mâchoire. En réalité, les dents sont très ressemblantes à celles d'un chien domestique. En contrepartie, la grosse différence avec le chien, c'est que le loup a une puissance colossale de mastication et de pression qui fait la différence avec un chien. Ça, c'est phénoménal. Il faut le savoir. C'est que, en particulier, lorsqu'il y a une brebis ou un chevreuil ou un animal sauvage qui est tué, l'une des premières caractéristiques pour savoir si c'est un loup ou un chien errant, c'est de regarder le diamètre de la perforation de la peau du cou. Donc, celui qui est amené à faire le constat va disséquer le cou dans la longueur, dépecer un peu, regarder le diamètre. Si le diamètre des crocs qui ont percé n'excède pas 5 à 8 mm, c'est plutôt un chien. Si ça dépasse 8 mm, jusqu'à 1 cm, c'est un loup. Non pas que la canine soit beaucoup, beaucoup plus importante ou volumineuse, mais c'est la pression qui fait que le loup va perforer nettement plus profondément, et du coup, la perforation de la peau peut atteindre jusqu'à plus de 1 cm 2 ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une caractéristique très importante. Je n'y reviendrai pas tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est important pour distinguer si c'est des petits crocs. Malheureusement, nous, on ne le classe pas dégâts de loup. On le classe soit inconnu, indéterminé, soit chien errant, bon, on ne sait pas, hein, disons. Hein. Nous, on ne sait pas faire la différence si on n'a que ce critère-là. Hein. Donc, je ne m'attarde pas sur la description de l'espèce et on pourra en discuter éventuellement. Sur la vie sociale, alors ça, c'est un des éléments très importants. Le loup vit en meute, et exclusivement en meute. Donc il y a un couple alpha, c'est un mâle adulte et sa femelle alpha, on les appelle comme ça parce que vraiment c'est un couple qui est fidèle jusqu'à la mort de l'un des deux individus, et le couple va rester indissoluble toute sa vie. Et avec, du coup, il va y avoir les jeunes de l'année, voire de l'année précédente. Il y a très très rarement l'adjonction d'un individu qui va rôder, qui va se mettre dans la meute. Ça peut arriver, enfin, nous, on ne l'a jamais constaté. Hein. C'est une chose qui... Alors, peut-être en enclos, ça se passe, j'ignore. Mais en nature, par la génétique, puisqu'on peut identifier jusqu'à l'individu hein, avec la génétique, on n'a jamais constaté qu'un loup vienne intégrer une nouvelle meute. Donc, c'est le couple dominant qui va ainsi se former et qui va donner une descendance. Alors, la pression sociale qu'exerce notamment la femelle, la louve alpha, inhibe, empêche toute autre femelle qui vienne, notamment les plus jeunes, ou s'il y a une autre femelle qui vient, si elle venait s'adjoindre à la meute, elle ne va pas pouvoir reproduire, même s'il y a le mâle, parce qu'elle a un tel stress que ça inhibe complètement sa gestation. Ça, c'est une chose qui est avérée. Dans une meute, il n'y a vraiment qu'une femelle qui va reproduire. Ça, c'est une chose qui se trouve, je ne pense pas, dans beaucoup d'autres espèces. Donc la mise bas a lieu dans un abri naturel. Le loup, pour ça, est assez éclectique. Il va récupérer un terrier de renard qui va éventuellement élargir, ou de blaireau, un abri sous roche, des buissons. Enfin, ils ne sont vraiment pas très difficiles. Alors à la naissance, le jeune est sourd et aveugle. Il va être sevré vers 2 mois. Donc... je reviendrai sur la période. Donc, à 2 mois, il sera sevré. Et ensuite, il se nourrit de viande, généralement régurgitée, soit par la mère, soit par le père d'ailleurs, ou par l'un des jeunes de l'année précédente qui va aussi chasser pour le compte de la meute. C'est vraiment toute la meute qui travaille à l'éducation et à l'élevage des petits de l'année en cours. Donc, les territoires sont exclusifs. Ça aussi, c'est important à savoir. C'est que lorsqu'une meute est implantée sur un territoire, donc un espace, je reviendrai sur la surface que cela représente, il n'y a aucune autre meute qui va venir. C'est vraiment la définition en éthologie du territoire, c'est vraiment quelque chose d'exclusif. Hein. C'est comme les barrières ou les murs autour d'une maison. Hein. Personne n'a le droit de venir. Hein. C'est quelque chose de très important à savoir. Et c'est essentiellement les deux couples, le couple pardon, alpha, le mâle essentiellement, ou la femelle, qui vont uriner, poser des crottes à la limite du territoire. Les jeunes ne vont pas, vont très peu, disons, à la périphérie, et restent au milieu du territoire qui est encerclé par le mâle. Le mâle ayant un travail, j'allais dire, très important de marquage et de défense du territoire. Alors pour la surface d'un territoire, la surface est très importante, hein. C'est de l'ordre de 150 à 300 km² en France et en Italie. Alors qu'est-ce que ça représente? Le nouveau canton de Marcillac, là j'ai regardé sur internet, représente à peu près cette surface. Alors ici, non, c'est l'ancien canton de Marcillac qui était de 263 km². La nouvelle définition, je ne la connais pas. Actuellement, il y en a un autre, j'ai vu en Aveyron, c'est le nouveau canton de Sèvrac d'Aveyron, qui est à peu près d'une surface équivalente, hein, entre 200 et 300 km². Donc c'est quelque chose d'assez important. Le loup navigue là-dedans, enfin la meute navigue là-dedans. Hein. Alors, le petit est nourri dans les 2 premiers mois, pratiquement toujours dans la tanière, ou près de la tanière, il ne sort pas tellement. Et puis au bout d'un bon mois, un mois et demi, vers la mi-août, puisque la mise bas, oui j'ai oublié de le dire, la mise bas a lieu vers... Alors d'abord, le rut a lieu en mars-avril, commençons par le début. Mars-avril, 2 mois de gestation, donc avril-mai, mise bas. Les jeunes, jusqu'à la mi-juillet, ne bougent pratiquement pas, mais à part... Je me suis trompé, juillet, non. Et puis vers la mi-août, ils commencent à circuler, et généralement, il y a ce qu'on appelle des sites de rencontre, de rendez-vous, où les jeunes avec la mâle, avec la femelle, leur mère, va rester pratiquement au même endroit, et les jeunes ainsi que l'adulte, voir s'il y a d'autres individus, vont chasser sur l'ensemble du territoire, dans des zones les plus propices généralement à la faune sauvage, malgré tout, ou aux animaux domestiques, et ramènent la nourriture ou viennent régurgiter lorsqu'ils sont très petits à cet endroit de rendez-vous. Donc ça, c'est quelque chose de très important en matière de suivi des populations, de connaître ces sites de rendez-vous qui sont pas nécessairement les mêmes d'une année sur l'autre, mais qui peuvent être les mêmes. On a des sites qu'on avait repérés sur 2-3 ans, c'était toujours les mêmes sites, ce qui fait que c'est très intéressant pour nous de connaître ces sites-là, parce que ensuite les opérations de suivi nous permettent de cadrer d'une façon beaucoup plus circoncise les territoires. Alors qu'actuellement, je crois qu'il y a quelqu'un qui fait partie du réseau dans la Lozère, l'espace occupé par la meute est tellement grand qu'on ne sait pas trop, on n'arrive pas à cibler, disons, trop bien actuellement encore la zone où on pourrait vraiment produire du hurlement provoqué. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc ces sites de rendez-vous sont très importants, hein. Donc là, le jeune, pendant un an et demi, va rester avec la meute, mais il va s'émanciper. Alors il y a deux périodes où il s'émancipe. Soit au moment de la reproduction, où là, il peut y avoir des bagarres, notamment entre loups qui voudraient venir occuper la place du mâle dominant, ou inversement une femelle, enfin ça peut arriver qu'il y ait des compétitions. Et là, des fois, on peut avoir déjà une première dispersion des jeunes de l'année précédente. Ils n'ont qu'un an, c'est quand même rare qu'ils s'en aillent à cette époque-là. C'est plutôt après, à l'automne, lorsque les jeunes de l'année en cours s'émancipent, les jeunes de l'année précédente, qui ont un an et demi, dans ce cas-là, vont partir, parce qu'ils sont soit éjectés par les mâles et femelles alpha, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de nourriture. Enfin, on ne connaît pas nécessairement les raisons, mais on se rend compte qu'à ce moment-là, ils commencent à partir. Alors le départ est quelque chose d'assez spectaculaire. On a équipé des loups avec des émetteurs, nous ou d'autres pays. Hein, là, quand je dis ça, c'est que nous, on en a équipé 4 dans les Alpes. Mais il y a pu y avoir d'autres études ailleurs, notamment en Italie, qui nous ont permis aussi de voir comment ça se passait. Et un loup, lorsqu'il chasse, pendant une nuit, généralement, il arrive à faire 30 km dans la nuit pour chasser. Hein. C'est pas rare. Hein. Il peut faire moins s'il trouve une proie facilement. Mais il peut aller jusqu'à une trentaine de kilomètres. Mais en contrepartie, sur plusieurs jours, on a eu des déplacements jusqu'à 800 km. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, c'est énorme. Hein. Donc 800 km. C'est ce qui explique que, on le verra aussi tout à l'heure, qu'on a eu des loups dans les Alpes au début. Et les premiers loups qui ont été constatés ailleurs, ça a été ou le Massif central, ou les Pyrénées en 2000, ou même les Vosges. C'est parti un peu tous azimuts. Et on se demandait un peu ce que c'était, qu'est-ce qui se passait, d'où ils venaient. Tout le monde disait, mais non, c'est des loups qui ont été lâchés, on les a capturés et on les a relâchés ailleurs. Et les Italiens, notamment, avaient capturé un subadulte, un jeune donc de 1 an et demi, qui a été blessé par une voiture, mais très peu. Et ils l'ont soigné, ils l'ont équipé du côté de Padoue, si je me souviens bien. Et ensuite, ils l'ont suivi par télémétrie, puisqu'ils lui ont posé un collier. Et il est venu jusque dans le Mercantour, ça on verra tout à l'heure, ça représentait 850 km. Donc c'est quand même, ils ont une capacité à se déplacer comme ça, assez grande. Et la dispersion ne se fait pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fonction de la disponibilité de la nourriture. C'est-à-dire qu'ils vont traverser des zones où il y a beaucoup de gibier, où il y a beaucoup de moutons, et puis ils ne s'arrêtent pas là, où ils restent quelques jours. Et puis, il continue sans qu'on sache exactement pourquoi. Parce qu'il n'y a pas que le facteur nourriture qui entre en ligne de compte. Il peut y avoir aussi le dérangement, les activités humaines. Enfin, on ne sait pas hein, si c'est le soleil, la pluie, la lune. On a du mal à identifier les raisons qui font qu'un loup va passer dans une zone qui semble être favorable à notre point de vue, mais qui, pour lui, a quelque chose qui le dérange. On n'a jamais trop su. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus en disant... le loup, d'ailleurs l'étude, avant même que les loups reviennent en France par l'Italie, il y avait une étude qui avait été soumise à un laboratoire de Montpellier qui faisait la prospective comme quoi c'était les loups qui sont en Espagne, du côté de la chaîne Cantabrique, qui allaient certainement venir coloniser les Pyrénées, puis le Massif central, avant d'atteindre les Alpes. Et puis ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Voilà, enfin, le genre d'études qui sont difficiles à cerner. Je ne dis pas que nous, on n'a pas la clé. Hein. On n'a pas la clé. Alors, Ce que l'on constate également, c'est qu'un loup qui s'en va, il ne va pas partir avec une sœur, si c'est un mâle, il va plutôt, en traversant des territoires, rencontrer une autre femelle, ou inversement, une femelle va rencontrer un mâle, enfin, on ne sait pas comment ça se passe, mais souvent, ce sont deux individus, mais pas toujours des couples mâles-femelles. Des fois, c'est deux mâles, des fois, c'est deux femelles, ce qui explique que dans certaines zones, comme dans les Pyrénées, jusqu'à preuve du contraire, on a des indices de loups venant des Abruzzes, mais on n'a encore, depuis l'an 2000, pas constaté une reproduction. Bizarre. Alors que la population continue à croître. Alors, il est possible aussi que nous, au niveau de notre ratissage, j'allais dire, sur le terrain, on ait manqué certains indices qui nous permettraient d'identifier ou le mâle ou la femelle. Donc ça, c'est quelque chose, ça ne se fait pas facilement, le contrôle de ce qui se passe sur le terrain. Donc on appelle le système de colonisation par tâche. Donc ça explique pourquoi on avait du loup dans les Alpes et actuellement, on voit qu'il y a une charge de plus en plus de meutes qui s'installent, toujours avec ce système de territoire. Mais comme les loups avaient dispersé relativement loin de leur zone d'origine, on avait des espaces disponibles. Alors actuellement, par exemple en 2016, on a 6 nouvelles meutes dans les Alpes qui se sont insérées dans le système de territoire qui était encore disponible. Voilà, ça c'est quelque chose. Et je crois qu'en 2017, on a le même phénomène, mais je ne sais plus le nombre de meutes. Voilà un peu pour le système social. Alors les activités journalières. En fait, le loup est actif toute l'année. Il n'y a aucun problème, il n'hiverne pas, il ne se repose pas. Alors le pic d'activité journalière, c'est plutôt le matin, le soir, voire la nuit. Donc je l'ai dit, il peut parcourir une trentaine de kilomètres. Au niveau alimentaire, il est carnivore, mais de temps en temps, il est carnivore jusqu'à des cadavres, donc plutôt nécrophage. Il peut arriver à manger de temps en temps quelques cadavres, ou aller dans des poubelles aussi, se servir dans des poubelles. Ça, on a pu le voir en télémétrie. On s'est rendu compte à Saint-Martin-Vésubie, pour ne pas nommer, que le loup qu'on avait équipé fréquentait les poubelles. Voilà. Mais enfin bon, essentiellement, il ne faut pas dire qu'il soit mangeur de cadavres ou de poubelles. C'est vraiment très accessoire. Alors pour se nourrir, un loup a besoin d'environ 2 à 4 kilos de viande par jour. Alors généralement, il va consommer sur une proie jusqu'à 8 kilos. Donc il se gonfle la panse, j'allais dire, et il va attendre avec ça 2-3 jours avant de recommencer. Sauf que une meute, c'est 2 à 5 individus, jusqu'à 10 pratiquement. Le maximum qu'on a trouvé dans les Alpes-Maritimes, si je m'en souviens bien, c'est 9 ou 10. Donc quand il y a 10 individus à nourrir, 10 fois 8 kilos, 80 kilos, il n'y a pas de proie sauvage, ni de mouton qui fasse 80 kilos. Ce qui veut dire qu'en fait, pratiquement tous les jours, les animaux qu'on avait équipés, les 4 animaux qu'on a équipés, surtout un, finalement c'était sur 7 jours, il y avait à peu près 6 jours où il avait tué quelque chose pour lui ou pour la meute. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors qu'est-ce qu'il mange? Évidemment, il cherche les proies les plus faciles. Parmi les cerfs, il peut tuer un cerf sans problème, chamois, isard, mouflon, chevreuil. Le bouquetin un peu moins dans les Alpes parce que le bouquetin va dans des falaises essentiellement. Le chamois, contrairement à ce qu'on peut croire, se nourrit beaucoup en pelouse et dort pas nécessairement en falaise, alors que le bouquetin dort en falaise. Et le bouquetin est plus difficile pour le loup à attraper. Et il y en a très peu. Le sanglier, quand il est disponible. Voilà, ça, ce sont les proies principales parmi la faune sauvage. Ceci dit, s'il peut attraper un lièvre ou un petit rongeur, voire des oiseaux au nid, il ne va pas se gêner. Et bien évidemment, le mouton, c'est toujours pareil. Chez tous les prédateurs, le principe de base, c'est l'opportunisme et ce qui est le plus facile, je prends. C'est la règle. Donc, parmi les nombreux défauts du loup par rapport aux brebis, il a un avantage, c'est qu'il va attraper les animaux malades, s'ils sont faibles et autres. C'est en quelque sorte un nettoyeur des espèces un peu fragiles, des espèces faibles. Donc il y a quand même des avantages. Alors chez les animaux domestiques, c'est vrai que il les capture facilement, sauf lorsque les bergers ont la technique du regroupement des brebis d'une façon ou d'une autre, dans des enclos, avec des patous ou avec des chiens élevés et dressés pour ça. Lorsqu'il y a des bergers aussi, ils ne stackent pas trop. Alors il y a des films là-dessus, dans les Alpes-Maritimes, dans le parc du Mercantour, qui sont très instructives, où l'on voit plusieurs attaques de loups sur des meutes la nuit, avec un infrarouge ou un amplificateur de lumière, et où on voit la technique où le loup contourne et il essaye d'isoler un individu du troupeau. Hein, ça. Alors quand il y a des chiens de berger, généralement les chiens donnent l'alerte et arrive à le contourner. Mais ils sont malins parce qu'ils sont plusieurs. Alors des fois, il y en a un qui va attaquer d'un côté, c'est généralement dans la pente, c'est le film en tous les cas qui est visionnable dans le parc du Mercantour. Il attaque d'un côté, et puis après on voit qu'il y a un loup, alors est-ce que c'est le même ou est-ce que c'est un collègue, je ne sais pas, qui attaque par le haut. Et donc en fait, les chiens sont descendus vers le bas de la pente pour protéger du loup qui attaquait par le bas, et puis en fait l'attaque a lieu par le haut après. Voilà, donc il arrive à ses fins. Alors, c'est vrai que là-dessus, c'est pas ma spécialité, c'était plutôt le ministère de l'Agriculture qui s'en occupait, mais les mesures d'accompagnement aident justement les bergers à protéger leurs troupeaux. Enfin, vous connaissez un peu l'élevage de brebis, sûrement même mieux que moi. En Aveyron, où il y a beaucoup de brebis pour le Roquefort, généralement, les troupeaux sont gardés et regroupés matin et soir. Alors ça, c'est un gros avantage par rapport à ce qui se passe dans les Alpes, où on a certes des gros troupeaux qui sont généralement bien protégés, mais on a aussi des petits troupeaux parce que les gens sont plus réactifs et ils ont hérité de la ferme, mais ils travaillent dans les vallées. Il y a beaucoup d'entreprises en Savoie, Haute-Savoie, Isère, et ils ont, pendant leur loisir, j'allais dire, ils ont aussi quelques brebis qu'ils mettent en alpage l'été. Et ces brebis, quand on en a 20 à 100, on ne les garde pas, quoi. Donc là, c'est des cartons. Hein. Le loup ne se gêne pas, hein. Ça c'est le problème. Hein. Ça c'est un gros problème de trouver un équilibre pour que les troupeaux soient malgré tout protégés. Alors bon, il est proposé des mesures où on leur demande à ces éleveurs qui ont de petits troupeaux de se regrouper pour former un genre de GAEC ou diverses structures pour pouvoir mettre un berger ou faire des enclos où on peut les regrouper. Enfin, il y a diverses solutions qui sont préconisées par le ministère de l'Agriculture. Alors, je passe, on pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus, sur la dynamique des populations. Alors ça, ce sont des mesures qui nous intéressent, nous, au niveau de l'expertise vis-à-vis du ministère, de connaître un peu quelles sont les rentrées d'individus, c'est-à-dire la reproduction, ou les migrations d'individus qui viendraient de l'extérieur, et puis les sorties, c'est-à-dire ce qui est mortalité, ce qui est braconnage, ce qui est empoisonnement, ce qui est accident, etc. Donc nous, on a besoin de savoir ça, d'une façon assez précise, et généralement, notre réseau, on a un réseau d'à peu près 1500 maintenant personnes dans 80 presque départements français, où on a formé notamment des personnels des administrations, hein, donc des collègues de l'Office national de la chasse, mais l'ONF, les chasseurs, les bénévoles, les accompagnateurs montagnes, enfin tout ce qu'ils veulent, tout le monde peut venir dans ce réseau et être formé pour donner des informations sur la dynamique des populations. Donc tout ce réseau de personnes est chargé d'aller faire les constats de dommages, voire collecter des indices. Alors, c'est plus facile dans la neige, hein. Généralement on peut suivre des pistes pour trouver des crottes, on collecte les crottes. L'urine dans la neige aussi, on la collecte parce que génétiquement, l'urine porte aussi des cellules, hein, quand on va à la selle ou quand on va uriner, eh ben, il y a des cellules de notre corps qui partent. Et donc, même dans la neige, on peut collecter la neige avec l'urine et on arrive à détecter génétiquement, même on peut aller jusqu'à l'identification de l'individu. Donc, ça, c'est très important. Les poils, tout ce qu'on peut collecter, on regroupe et on fait des recherches en génétique. Donc la durée de vie, ce qui nous intéresse, quelques éléments un peu plus précis. La durée de vie d'un loup peut atteindre 13 ans en nature, mais en général, 5-7 ans, c'est à peu près le maximum. Enfin, voilà, jusqu'à 13 ans. Hein. Et un loup est mature à partir de 2 ans, que le mâle et la femelle, à partir de 2 ans, peuvent se reproduire. Donc le rut, je vous l'ai dit déjà, la gestation 63 jours, 2 mois, une seule portée par an, de 3 à 5 jeunes généralement, mais on peut avoir jusqu'à 7-8. Hein. Nous, on n'a pas eu, je crois me rappeler, 5, ça a été le maximum de jeunes sur une année. Enfin bon, quelqu'un peut me contredire là-dessus, il peut y avoir d'autres cas. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jeune sur deux ne va pas passer 1 an de vie. La mortalité en nature, c'est 50% de mort au bout d'un an. Hein, alors là, au niveau de la dynamique, lorsqu'une population comme celle de France est en forte expansion, enfin ou tout au moins arrive comme ça, le taux de mortalité est un peu plus faible. Hein. Donc la survie des jeunes est un peu plus grande, ce qui est logique. Et puis quand il y a de populations un peu plus importantes, on constate une baisse du taux de survie. Voilà, pour la dynamique de population, je ne m'étends pas plus. Bon, où est-ce qu'on le trouve? Alors c'est une espèce qui est très plastique, hein, c'est-à-dire qu'elle a une facilité à s'implanter vraiment partout. En France, on n'aura pas de problème. Hein, l'histoire démontre, enfin, il y a 2 siècles, en France, pratiquement toute la France était colonisée. Hein. Moi, je me rappelle encore ma grand-mère, au début du XXe siècle, me racontait avoir vu un loup dans le fanal, parce qu'elle avait une calèche donc du côté de Campuac, Ville-Comtal, là, dans ces secteurs-là. Elles avaient un loup avec mon arrière-grand-mère dans le fanal d'une lampe tempête. Donc, on dit, elle a rappelé tout à l'heure que les derniers loups en France, c'est 1930. Hein, donc, je pense que c'est si je me souviens bien, le dernier loup, ce serait en Sologne, si je me souviens bien. Là, je ne suis pas très sûr de moi là-dessus. Donc, il peut coloniser la plaine et la montagne. Ça, c'est la question du ministère. La première question que m'a posée le ministère de l'Agriculture est jusqu'où le loup va aller. Ah, j'aurais dit, jusque dans Paris, la Bretagne, sauf dans les lacs. Enfin bon, c'est une façon ironique, mais on ne le sait pas. On le sait pas. S'il a de la tranquillité, il peut s'installer à peu près partout. Hein. C'est tranquillité et nourriture, c'est vrai que ce sont quand même les 2 points essentiels. Et après, comme je vous le disais, on ne sait pas pourquoi il va s'installer à tel endroit où apparemment il n'y a pas beaucoup de nourriture, et puis plutôt aller ailleurs, on ne sait pas trop. Donc en tous les cas, pour moi, on est incapable de prévenir, enfin ou de prédire où il va pouvoir s'installer à l'avenir. Alors j'ai déjà évoqué quelques caractéristiques particulières qui nous permettent d'identifier un loup, puisque à travers notre réseau ou par la gendarmerie aussi qui participe à la collecte d'informations, on reçoit des photos, on reçoit des prélèvements, on reçoit pas mal de choses, et donc il nous faut les analyser. Alors là, l'une des caractéristiques importantes sur les photos, c'est la longueur de la queue. Un chien loup, a une queue vraiment très longue, très très longue, alors que le loup, c'est 30 à 50 cm, c'est pas si long que ça. Généralement, il la porte basse. Lorsqu'il la porte très haute, c'est plutôt, même presque exclusivement, le mâle dominant qui va se signaler en ayant le port de la queue très haut et pour dire « attention, c'est moi le chef ». Donc ça, c'est quelque chose de très important. Une caractéristique, alors j'ai regardé sur les photos pour voir si on pouvait le constater, j'ai vu le masque facial qui est vraiment quelque chose de caractéristique chez le loup des Abruzzes. Il y a une autre caractéristique très importante sur les 2 pattes avant. Sur le loup des Abruzzes, je dis bien, ils ne sont pas les seuls, hein. Il y en a d'autres, notamment, je pense, en Russie, mais ils ont un liseré noir qui descend jusqu'au milieu de la patte, jusqu'à l'articulation. Hein. Donc ce liseré noir, sur les photos, il est, si on le voit, la page qui est ouverte, c'est très bien, c'est typique. Voilà, là, on voit bien le liseré noir. Je pense que c'est... Enfin, c'est pas sûr que ce soit des Abruzzes, mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose... Voilà. Et le masque facial aussi sur le loup de gauche, très typique. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez caractéristique. Alors une autre caractéristique lorsqu'on a le loup en main, parce que sur les traces dans la neige ça ne se voit pas ou dans la boue, c'est qu'il a des coussinets plantaires qui sont joints par un pont de chair au milieu. Hein, donc c'est comme si lorsque vous écartez les 4 doigts, il y a un petit pont entre les 2 du milieu. Donc ça, c'est typique du loup des Abruzzes. Bon, j'ai parlé déjà de la puissance de la mâchoire. Ça aussi, c'est quelque chose qui est relativement rare, mais qu'on a pu voir, une brebis vivante avec le gigot arrière arraché. Ça, un chien ne peut pas le faire. C'est même les malamoutes et tout ça, je n'ai pas fait de la bibliographie là-dessus, mais je ne pense pas qu'il ait la capacité du loup. Un loup arrive, avec la puissance qu'il a, à arracher une patte, un gigot entier. Donc là, l'éleveur, malheureusement, quand il voit ça, il est obligé d'abattre la brebis. Ça, c'est... Voilà, c'est pour dire un peu la puissance qu'il a. Donc j'ai parlé du diamètre des crocs dans la peau du cou, généralement. Alors, dans la nature, une meute, va suivre ou la femelle dominante ou le mâle dominant, généralement, qui va être en tête de la meute. Et tous ceux qui suivent, dans la neige ou dans la boue, vont mettre leurs pattes dans la patte de celui qui a précédé. Ce qui fait que lorsque vous trouvez une trace de loup, c'est 8, 11 cm en largeur et en longueur, jusqu'à 12 cm même. Donc, vous n'allez voir qu'une trace. Vous dites, bon, ben, y en a un. Alors ça, justement, le réseau est chargé de suivre la trace. C'est l'une des missions des équipes qui sont formées par l'Office national de la chasse. C'est de suivre la trace sur de grandes distances, si possible. Et généralement, lorsqu'il y a un obstacle, une petite falaise, un arbre, un rocher, un ruisseau à traverser, il arrive souvent que ceux qui suivent ne suivent pas la même trajectoire. Et du coup, vous allez avoir jusqu'à 7 individus différents, alors qu'avant, vous avez suivi pendant 2 km, vous pensiez qu'il y en avait qu'un, et puis on a jusqu'à 2, 3, 4, 5, je vous dis jusqu'à 7 individus comme ça. C'est assez spectaculaire. L'autre caractéristique de la voie du loup, c'est sa rectilinéité, je ne sais pas si c'est bien français. Elle est rectiligne, c'est-à-dire que le loup va suivre vraiment une trajectoire toute droite. Alors qu'un chien, parce qu'il y a quand même les malamoutes ou des chiens huskies qui ont quand même des pattes bien bien larges et qui peuvent être confondues, même eux, certainement même sont croisés loups, il est très rare que la voie soit droite. Ils vont zigzaguer un peu, c'est un peu non linéaire. Alors que le loup, c'est une des particularités très caractéristiques du loup. Donc ça marche. Bon. L'autre chose qui est très intéressante à connaître sur les particularités, c'est que le jeune louveteau, à sa naissance, il va japper comme un chien. C'est ouh, 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 un petit chien, un chiot, il va japper. Et ça, jusqu'à 2 mois à peu près. Ce qui fait que nous, au mois d'août, on fait ce qu'on appelle le hurlement provoqué. Du coup, on fait avec un cône de route, blanc et rouge. Et on hurle comme un loup, comme on a l'habitude, comme ça, c'est tout, dedans. Donc ça porte, et on met un réseau d'observateurs dispersés. C'est ce que je disais, c'est que quand on ne connaît pas la zone de rencontre où ils portent de rendez-vous, où ils vont apporter la nourriture, on hurle n'importe où et on a du mal à cerner s'il y a ou pas des loups. Alors que lorsqu'on sait à peu près où ils vont se retrouver, ça marche très, 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 très bien. D'ailleurs, le hurlement provoqué peut marcher toute l'année. Le loup est très réactif, et l'imitation, il n'y a pas besoin d'être expert S-loup pour hurler. N'importe qui peut faire un hurlement et le loup va répondre s'il est là. Donc ça, en fait, nous, on n'utilise pas ça pour dénombrer le nombre de loups, parce que s'ils sont regroupés au moment, on va entendre qu'il y a plusieurs loups, mais on ne va pas savoir. Donc c'est pas très efficace pour identifier le nombre de loups présents dans la meute. En contrepartie, quand les uns ou les autres se mettent à hurler, on a les petits qui vont japper à côté. Waouh, 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 de tout petit jappement. Et là, nous, on est alertés, il y a reproduction. C'est tout ce qu'on veut savoir, nous. Est-ce que la meute a reproduit ou pas? Donc on a comme ça, généralement, alors on a du mal à... Je pense qu'on est à... La moitié des meutes, j'ai pas en tête le chiffre exact du pourcentage de meutes qu'on arrive à identifier où il y a reproduction. Mais enfin, on a quand même un bon nombre d'animaux que l'on arrive à dire la meute s'est reproduit ou pas. Voilà. Ensuite, alors au niveau de la recolonisation en France. Alors, Je remercie, je crois que c'est Léna qui a fait une photocopie d'un petit ouvrage que j'avais sur la colonisation. Je vais la faire circuler, c'est une carte qui montre comment s'est développée la population italienne. Ce qui explique que la population des Abruzzes est venue jusqu'en France. Alors la première carte à la gauche du document montre la répartition estimée en 1900 en Italie. On voit qu'après, en 1973, il n'y a plus que quelques points avec la population des Abruzzes qui est la plus à gauche, à haut. En 1985, on voit qu'il y a une expansion de l'espèce. Et on voit qu'en 1992, ça, ce sont des documents publiés par les Italiens. Donc nous, on n'a absolument pas travaillé sur ces documents. On voit que les noyaux se sont encore étendus, notamment celui des Abruzzes. Et on voit qu'il y a un noyau à la limite de la France, et c'est ceux-là, ce sont ces loups-là qui ont été détectés dans le parc du Mercantour en 1992. Les premières observations en France datent de 1992. Donc je fais circuler ça, vous pouvez le regarder plus en détail. Donc premier loup détecté en 1992 dans le parc du Mercantour. Et alors, comme je disais, la colonisation s'est opérée par tâche. Hein. Donc, ça n'a pas été une colonisation toute progressive, mais par tâche d'une façon relativement lointaine. Alors, le loup, alors quand on voit la répartition, justement, c'est intéressant, on voit que le Mercantour, il y a très peu de points dans le nord de l'Italie, et pourtant, alors en 92, on les a vus en France, et en 95, en Suisse. Donc là aussi, il y a eu un gros saut. Ils ont avalé toute la vallée du Pô pour aller du côté suisse, en 95. Mais il faut savoir qu'en 94, un loup a été tué dans les Vosges françaises. Donc il est parti forcément ou de Suisse ou du Mercantour pour aller jusque dans les Vosges. Et on est sûr que on a eu des tissus qui nous ont permis d'identifier en génétique que c'était de la lignée italienne. On sait, alors il y a un document intéressant aussi, vous l'avez en vente, sur le fait que il y a une petite colonie qui s'est installée dans les Vosges, mais ils ont migré du côté Champagne, hein. ils ont traversé du côté presque vers les Ardennes, hein. Donc on a une colonisation par le nord-est de la France assez importante, hein. Alors dans le Massif central, les premiers deux animaux issus du Mercantour ont été tués dans le Massif central en 95. L'un en 95 et l'autre en 99. Vous voyez que ça a explosé dans les 2-3 premières années, ça a explosé à la fois dans le nord, Massif central, et également dans les Pyrénées en 2000. Donc c'est quand même en 7-8 ans, il y a des loups qui sont partis un peu partout. La France a été en quelque sorte arrosée. Hein. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a des observations un peu plus anecdotiques, parce que quand le loup est vu à un endroit, ça ne veut pas dire que la meute s'installe. Donc on a des photos authentifiées loups dans le Gers en 2012, si je me souviens bien. Oui, en 2012. On en a eu dans la Montagne Noire un peu plus tôt, en 2008, je crois me rappeler, où là il y avait même des dégâts de chevreuil. Et pour autant, en Montagne Noire, c'est que maintenant qu'on a une petite colonie qui semble s'installer à la limite entre la Cône, si vous voulez, le Carou, où il y a du mouflon en pagaille, et puis le sud de l'Aveyron brusque, ces zones-là. Il y a peut-être un petit noyau. Il y a un autre noyau, comme vous le savez, sur le Cos, je confonds toujours, sur la commune de Millau, en tout cas, il y a des dégâts, et je pense que c'est entre la Dourbie et le Tarn. C'est le Cos Méjean ? Méjean. Ouais. L'Arzac aussi, oui. Apparemment, c'est la même meute. Limite l'Arzac, mais plutôt de fait vers Lozère. Et puis là, vers le nord, donc l'Aubrac, avec une population, enfin une meute qui, semble-t-il, est plus, fréquente un peu plus la Lozère. Et ça, un collègue qui suit le terrain sera plus à même que moi de préciser la localisation. Même si en Aveyron, je crois qu'il y a 2 ans, il avait été détecté par le hurlement provoqué, mais les traces sont beaucoup plus fréquentes, je crois, du côté Lozère. Hein. Voilà ce que je voulais vous exposer, et puis la parole est à vous, si vous avez des questions.
Merci Michel. Donc là, on se trouve à la pause, donc vous pouvez profiter de débattre entre vous, de venir voir la...